Bonjour Aurélie Gaucher, on se retrouve devant la MSH, l'université à Grenoble pour une interview pour l'émission du 10 novembre sur l'épuisement parental et le burn-out parental. Je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer dans quel cadre vous menez cette expérimentation de parents burn-out, parents BO.
Oui, bonjour, merci déjà pour l'invitation. Donc, je suis Aurélie Gaucher, je suis professeure en psychologie de la santé à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je collabore donc avec Rebecca Shankland, qui est ma collègue également sur le projet Parents BO, donc sur l'épuisement des parents, dans lequel donc, on a pu obtenir un grand financement pour pouvoir faire bénéficier à un maximum de parents d'ateliers pour prévenir l'épuisement parental. Ces ateliers donc, sont multiples, hein, donc on a plusieurs types d'ateliers, d'interventions, qui vont proposer en fait en 8 séances, donc à raison de une séance par semaine, donc généralement c'est entre midi et deux pour les parents. Donc on a un petit groupe de 10 parents généralement qui sont les mêmes sur l'ensemble des 8 séances. Et donc toutes les semaines ils vont venir pour aborder une thématique spécifique autour de l'épuisement parental et notamment venir essayer de trouver des outils pour pouvoir apprendre à mieux, par exemple, réguler leurs émotions, les émotions des enfants, pour arriver à trouver aussi plus de soutien, pouvoir repérer aussi ce qui les stresse et puis éventuellement essayer un peu de modifier leur point de vue, leur perspective aussi. Donc on a ces ateliers qui sont vraiment des échanges très interactifs, hein, à la fois entre les parents et donc des professionnels pour les accompagner. Et l'idée, c'est donc de pouvoir les mettre au travail aussi chaque semaine avec des petits outils très concrets, pratiques, d'échanger autour de ça. Et on propose aussi, par exemple, de la relaxation et donc voilà, des moments aussi un peu de détente pour pouvoir faire diminuer un peu la pression et le stress.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est l'épuisement parental ?
Alors l'épuisement parental, déjà c'est peut-être important de replacer un peu le contexte, c'est un terme aujourd'hui dont on parle de plus en plus, mais finalement ça fait longtemps que ça existe, mais c'est peut-être encore plus présent depuis quelques années. Alors évidemment ça a explosé encore davantage avec le confinement, où il y a eu énormément d'appels de parents qui étaient à bout, qui n'en pouvaient plus, de devoir gérer à la fois leur travail et puis évidemment en plus la scolarité des enfants et d'avoir les enfants à domicile en permanence. Donc ça a été encore plus un catalyseur, mais néanmoins c'était déjà présent, avec notamment les femmes qui travaillent de plus en plus, donc qui aussi se deviennent un peu plus égalitaires par rapport aux hommes. Et puis de l'autre côté, les hommes aussi qui sont égalitaires par rapport aux femmes, puisque eux aussi vont de plus en plus mettre la main à la pâte dans l'éducation et donc devoir être des bons papas. Et on voit que ces échanges un peu de rôles sociaux vont parfois aussi générer finalement de l'épuisement de part et d'autre. Et donc on a aussi de plus en plus de familles qui sont soit monoparentales ou soit qui sont éloignées de leurs parents. Donc il n'y a plus les grands-parents qui peuvent être présents et fournir de l'aide comme ça pouvait être le cas avant. Et donc tout ça va faire qu'il y a davantage d'épuisement aussi dans notre société qui en demande toujours plus, où on peut aussi choisir à quel moment on fait les enfants. Donc parfois on veut avoir un enfant qui soit parfait, qui fasse beaucoup d'activités, qui soit extrêmement épanoui, développé. Et donc tout ça va faire qu'on met la pression en fait sur les parents, la société met la pression sur les parents, qui veulent tout mener de front, leur travail, leur carrière et puis évidemment leur propre développement et le développement de leurs enfants. Et ça va donner parfois, dans certains cas, surtout quand on veut justement trop bien faire, quand il y a un fort perfectionnisme, et bien de l'épuisement parental. Et donc le fait d'être épuisé, eh bien, ça va se manifester par justement une moindre envie finalement de s'occuper de ses enfants, donc un épuisement, une lassitude par rapport à son rôle de parent. Donc c'est très nettement vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire qu'on voit une grande différence entre l'avant et l'après. À un moment donné, on sent que vraiment là, on est un peu en mode pilote automatique et qu'on a moins envie de s'occuper des enfants. En tout cas, on le fait par obligation, mais plus par plaisir. Et donc ça va vraiment caractériser l'épuisement parental.
Et il y a d'autres éléments de diagnostic en dehors de cette perte de plaisir à être avec les enfants ?
Oui, alors dans les autres éléments qu'on va pouvoir vraiment noter, ça va être effectivement un désengagement et aussi un peu un manque de confiance en son rôle de parent. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus être un bon parent. Et ça, c'est tout à fait caractéristique des parents qui sont épuisés, qui vont nous dire je ne suis plus le même qu'avant. Donc on a vraiment, encore une fois, vraiment ce fossé entre l'avant et après. Et où en fait, le parent va vraiment faire le minimum, mais ne va plus passer du temps plaisant avec son enfant, il n'en sera plus capable et donc il va l'impression de plus être un bon parent. Donc ça, quand le parent commence à ressentir ça, mais souvent c'est compliqué pour le parent lui-même de diagnostiquer, c'est pour ça que c'est important que l'entourage aussi soit vigilant, que ce soit évidemment le conjoint, mais aussi l'entourage au niveau plus large, et puis évidemment aussi le médecin de famille, si à un moment donné on voit qu'on peut avoir des parents dans son cabinet qui sont vraiment épuisés et qui vont mettre des mots où on sent qu'il n'a plus le même discours par rapport à son enfant ou à son rôle en tant que parent, eh bien on peut commencer à creuser un peu plus et poser la question peut-être d'un diagnostic d'épuisement parental.
Est-ce qu'il y a des signes physiques ? On entend souvent parler, par exemple, de personnes qui n'arrivent plus à se lever un matin comme ça. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent ?
Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir des parents qui, en fait, le matin, juste à la simple idée de se lever, de se dire qu'ils ont toutes les tâches ménagères habituelles à faire, se sentent épuisés et n'ont plus envie, n'ont plus l'engouement pour se lever, pour faire les choses habituelles. Donc là, c'est des choses quand même qui peuvent déjà commencer un peu à éveiller. Et donc, effectivement, on a un vrai épuisement physique, c'est-à-dire que c'est comme quand on a un épuisement, d'une manière générale, ce qu'on appelle le fameux burn-out, hein, qui peut se manifester effectivement de différentes manières, psychiquement ou plus physiquement. Et donc, l'idée, c'est qu'on a accumulé tellement de stress qu'à un moment donné, en fait, on a l'organisme qui est épuisé, le psychisme aussi qui est épuisé, et donc on a une grande fatigue, une lassitude qui fait qu'à un moment donné, le parent n'a juste plus envie et va encore une fois vraiment fonctionner en pilote automatique, mais sans aucun plaisir.
Une fois que l'épuisement parental a été repéré, a été diagnostiqué éventuellement et accompagné par le médecin de famille, que l'entourage s'est mobilisé, comment on le traite spécifiquement ?
Alors déjà, effectivement, ça va être important de ne pas rester seul. Donc ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, dans les facteurs à risque, il y a le fait d'avoir peu de soutien. Et donc, moins on a de soutien, et plus évidemment, ça va être compliqué, difficile. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir trouver du soutien, donc idéalement autour des proches, de l'entourage. Donc ça peut être évidemment le conjoint en premier, mais encore une fois, dans les familles monoparentales, on voit que ça va être un peu plus lourd à gérer. Donc il ne faut pas hésiter aussi, les amis, les voisins, la famille éloignée. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir partager un peu ce fardeau, hein, avec des guillemets bien sûr, mais de pouvoir pas rester seul par rapport à ça, prendre le temps de pouvoir justement se reconsolider, on pourrait dire, hein, retrouver un peu d'énergie, déjà prendre le temps pour soi, de retrouver de l'énergie et de l'envie d'être de nouveau voilà, un bon parent, de repasser du temps avec ses enfants, plus en qualité qu'en quantité, et donc retrouver peut-être même des petits moments de plaisir avec l'enfant, mais déjà avant, c'est de voilà, trouver du soutien et de l'aide pour ça. Parfois il va falloir du temps pour arriver à retrouver vraiment l'envie et l'énergie, et surtout de ne pas rester seul. Donc ça peut être justement de participer à ce genre d'atelier. L'avantage dans ce genre d'atelier, c'est qu'on va beaucoup échanger. Donc déjà, on se rend compte que c'est pas parce que parfois on s'emporte ou qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on n'est pas un bon parent. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc ça, c'est important de déculpabiliser, de pas trouver ça honteux par rapport à cette situation-là. Et puis ensuite, de pouvoir échanger et se rendre compte que y a aussi des situations un peu plus difficiles. Au début, on avait beaucoup parlé d'épuisement parental pour les parents d'enfants avec des pathologies notamment. Donc pathologie évidemment somatique, mais on se rend compte aujourd'hui que le fait d'avoir aussi un enfant avec par exemple d'hypersensibilité ou un comportement de trouble, de l'hyperactivité, etc. Eh bien tout ça fait que évidemment c'est aussi plus lourd à prendre en charge pour les parents, et donc on a certaines situations où c'est un peu plus difficile à gérer. Mais même parfois quand on a, on a juste un seul enfant, qu'on est à la maison, qu'on ne travaille pas, on peut aussi être en épuisement parental parce que justement on n'a pas de soupape un peu à l'extérieur, et donc c'est important encore une fois de pouvoir en parler, ne pas rester seul et d'aller chercher du soutien, de l'aide, et par exemple avec ce genre d'atelier, de pouvoir trouver des outils et des pistes pour s'en sortir.
Et là, vous nommiez la question de la culpabilité et la pression qu'on met aux parents pour bien faire, et la question aussi de se sentir coupable, par exemple, parce qu'on s'est emporté, parce qu'on a crié. Moi, je trouve que c'est un des paradoxes un peu de l'éducation positive et des discours autour du risque de traumatiser ou de stresser les enfants. On en arrive en fait à plus savoir ce qui est bon et à devoir réfréner un peu des élans qui sont assez naturels chez un être humain à un moment donné d'être agacé, et on sait un peu plus comment faire en fait.
Alors c'est vrai que dans les ateliers, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est-à-dire qu'on a quand même de plus en plus maintenant de parents sensibilisés à la bienveillance éducative, l'éducation positive, et tout ça c'est formidable, hein, faut pas le remettre en cause. Par contre, en effet, ça peut augmenter la culpabilité de certains parents en disant mince, là j'ai pas réussi à me retenir, j'ai pas été assez patiente, je me suis emportée. Évidemment qu'il n'y a pas de parents parfaits, hein, ni vous ni moi, personne n'est parfait. On a tous des moments où on s'emporte, et j'ai envie de dire c'est pas grave. L'idée, ça va être de pouvoir revenir aussi en parler avec l'enfant et dire voilà, là effectivement j'étais fatiguée, j'ai manqué de patience, ou j'ai une journée difficile. C'est de pouvoir en parler, et puis surtout d'accueillir les émotions aussi, que ce soit les nôtres ou celles des enfants. Et à partir du moment où il y a de l'amour, de la bienveillance, et puis où on arrive à parler des émotions, on pourra jamais vraiment mal faire, entre guillemets. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre un parent idéal, parfait, qui n'existe pas, qui serait tout le temps bienveillant à 100%, et puis le parent de la vie de tous les jours, où par moment, effectivement, on peut aussi être parfois un peu plus fatigué, un peu plus irritable, et c'est tout à fait normal, et ça veut pas dire qu'il faut se culpabiliser, qu'on a un mauvais parent, ça veut juste dire qu'il y a des moments où on y arrive, des moments où c'est plus compliqué, et on essaye de faire au mieux parmi tout ça. Mais en tout cas, on essaye au moins de se rapprocher le plus possible de l'éducation qu'on aimerait donner à ses enfants. Et encore une fois, on voit bien que quand on échange avec les autres parents, il y a tous des moments où c'est plus difficile que d'autres, en fonction des périodes aussi de l'enfant, de la petite enfance, qui est quand même particulièrement difficile parfois au niveau de la fatigue physique, et puis aussi des émotions. On sait qu'en anglais, ils disent les terrible two. Et donc voilà, on sait que le 2-4 ans, avec la pose des limites, bah, parfois, c'est aussi une période tout à fait critique. Ça ne veut pas dire pendant 2 ans, ça va être l'enfer, mais qu'en tous les cas, il y aura des moments où ça va être plus difficile. Donc bah, tout ça, on essaye de conjuguer au mieux avec nos propres ressources. Et puis, encore une fois, en essayant d'échanger et trouver des outils pour arriver parfois aussi juste à se décaler. Par exemple, des petits outils qu'on donne dans les ateliers, c'est d'essayer de porter un peu plus l'accent sur les qualités de notre enfant. C'est vrai que souvent, on a tendance à voir tout ce qui ne fait pas bien, de mettre en avant les défauts, de critiquer. Et en fait, finalement, quand on inverse un petit peu le regard et qu'on se dit, bah, en fait, mon enfant, finalement, il arrive très bien à faire ceci ou cela, bah, déjà, ça change le regard. Et de le dire aussi à l'enfant, ça va lui donner un élan, une spirale positive, et il va avoir envie de continuer à être dans cette spirale de mouvance positive. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, nous, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on aime faire avec nos enfants. Les bons moments qu'on partage déjà avec eux, qu'est-ce qui fait qu'on est déjà des bons parents. Et donc, encore une fois, de renforcer ces aspects-là, ça peut déjà renforcer la spirale positive, plutôt qu'encore une fois, toujours voir ce qu'on fait pas bien. Parce qu'évidemment, il y aura toujours des choses qu'on fait pas bien. Mais il y a aussi plein de choses qu'on fait déjà qui sont bien. Et ça, c'est important de le souligner et d'en prendre conscience aussi.
Pour revenir sur cette question de la pression qui peut être mise aux parents et des injonctions à bien faire, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires et qui sous-entendent en fait que certaines situations qu'on estimerait assez classiques dans le quotidien viendraient stresser ou traumatiser les enfants. Et un peu comment ces mots-là sont instrumentalisés et que du coup c'est un vrai stress pour nous en tant que parents de se dire « Ah, bah, si je force mon bébé à se moucher, je vais le traumatiser. Si je le tire par le bras alors qu'il a traversé la route, je vais le traumatiser. Si je le laisse pleurer, je vais le traumatiser. » Et il y a cette peur du traumatisme qui vient un peu teinter les relations et qui pour moi est hyper toxique en fait.
Alors ce qui est sûr, c'est qu'en tant que parent, je pense qu'on a tous la volonté de bien faire et la peur de mal faire. Et donc ça, je dirais, c'est plutôt tout à notre honneur, hein, parce que justement, on cherche des pistes pour essayer de faire au mieux. Et ce qui va être important, c'est d'essayer de repérer les situations qui vont être récurrentes. En fait, c'est pas parce qu'une fois, effectivement, on va attraper notre enfant par le bras parce qu'il manquait de se faire renverser sur la route, qu'on va le traumatiser. Évidemment que là, il y a l'urgence, et puis il y a une différence entre, à un moment donné, mettre peut-être avoir un geste malheureux une fois, et tous les jours faire des punitions, des maltraitances, etc. Donc on sait que c'est la répétition de la maltraitance et de la négligence qui vont être importantes. On sait néanmoins que les mots aussi sont importants, donc le fait par exemple de tous les jours répéter à l'enfant qu'est-ce que t'es maladroit, t'es bête, etc. Évidemment que ça aussi, ça va jouer sur son estime de lui, donc ce sera évidemment moins, entre guillemets, maltraitant que ce qu'on peut voir des violences physiques, mais effectivement c'est plus de la violence ordinaire. Mais encore une fois, il y a une différence entre avoir un mot ou un geste malheureux à un moment donné, occasionnellement parce qu'on perd patience et qu'on est à bout, et répéter ces éléments-là au quotidien, où là évidemment, il y aura beaucoup plus un traumatisme flagrant. Donc je pense que tant qu'on est toujours dans cette volonté de bien faire et d'essayer de se remettre en question et de dire à chaque fois est-ce que je fais ce qu'il y a de mieux pour mon enfant, en général, c'est plutôt qu'on essaie de bien faire et on n'est pas dans une vraie maltraitance. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a parfois tendance à mettre des critiques négatives régulièrement vis-à-vis des enfants. Encore une fois, on voit plus souvent ce qui va pas bien que ce qui va bien, et je pense qu'il faut essayer d'arriver encore une fois à renverser un peu notre regard en essayant au contraire aussi plutôt de dire, de valoriser et de dire à l'enfant, bah, je trouve ça génial là, ce que tu as fait, et puis des petites choses aussi, bah, tiens, qu'est-ce qui était chouette dans ta journée. Donc encore une fois, vraiment d'être plus sur ce versant là qui peut renforcer son estime de lui et puis améliorer les relations clairement entre les parents et les enfants.
Comment on en parle à nos enfants quand on se retrouve dans ces états là
Alors les enfants, déjà, tout le monde le sait, c'est des éponges, hein, donc je pense que c'est important de pouvoir nommer les émotions, parce que plus, en fait, on est vraiment un modèle pour les enfants. C'est pour ça que quand on crie pour demander à l'enfant de pas crier, ou quand on lui tape sur la main pour lui dire de pas taper son frère, en fait, c'est complètement contre-productif, et donc on lui montre pas du tout le bon exemple. Donc au contraire, il faudrait lui dire, est-ce que tu pourrais parler doucement, comme ça, et puis lui dire, est-ce que tu pourrais plutôt caresser, plutôt que... Voilà, donc bon, ça c'est très caricatural, mais pour montrer qu'on est un vrai modèle, et donc si nous, on arrive effectivement à réguler nos émotions, et bien l'enfant à force, va aussi réguler ses émotions. C'est important de connaître le développement de l'enfant et de savoir qu'avant 6 ans, tout son cerveau, le cortex préfrontal, n'est pas terminé. Donc, tout ce qui va être la régulation des émotions est très compliqué avant 6 ans. Et donc, notamment, on considère qu'il n'y a pas de vrai caprice avant 6 ans. C'est juste que l'enfant, il est submergé par ses émotions et il va avoir du mal, en fait, à les contenir. Et c'est là que nous, en tant que parents, on va essayer justement de pouvoir mettre des mots dessus en essayant de proposer peut-être des hypothèses. Est-ce que là, c'est parce que t'as faim, parce que t'as passé une mauvaise journée, t'es fatigué. Donc d'essayer de proposer pour interpréter un peu son émotion et mieux la comprendre, mieux la saisir. Et donc en étant un modèle pour l'enfant, en général, on va arriver à lui montrer l'exemple au fur et à mesure. Et donc l'idée, ça va être justement de pouvoir aussi nous nommer quand, par exemple, à un moment donné, on est vraiment fatigué, qu'on n'est pas bien, de pouvoir le dire. Et surtout, de pouvoir dire aussi pourquoi. C'est-à-dire peut-être que c'est parce qu'on n'a pas assez d'aide ou parce qu'on est particulièrement fatigué parce qu'on n'a pas assez dormi depuis un certain temps. Enfin voilà, mais pour que l'enfant comprenne que c'est pas sa faute, parce que souvent les enfants, ils ont tendance à se culpabiliser très facilement, encore plus si c'est un burn-out parental. Ils vont se dire c'est moi qui suis pas assez sage, c'est moi qui suis pas assez gentil. Et donc c'est important de dire que voilà, par moment, être parent, c'est pas tous les jours facile non plus. Je pense que l'enfant, il peut le comprendre, qu'on fait de notre mieux pour être un bon parent et que bah, y a des moments où on peut aussi être fatigué. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser des mots simples, mais surtout faire comprendre à l'enfant, voilà, encore une fois, que c'est pas lui qui est responsable, c'est le fait qu'on cumule peut-être plusieurs tâches qui vont faire qu'à un moment donné, on est fatigué et puis on a besoin aussi de temps pour soi, pour se ressourcer. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que souvent, les parents qui sont épuisés, ce sont les parents justement qui veulent tellement des bons parents, qui s'en oublient eux-mêmes et qui vont avoir tendance à mettre leur enfant en priorité en permanence. Mais finalement, c'est pas forcément être ça, être un bon parent. C'est aussi pouvoir prendre un peu de temps pour soi ou pour le couple aussi, et pour pouvoir recharger les batteries et ensuite pouvoir aussi bien s'occuper de ses enfants. Si le parent va bien, les enfants vont aller bien aussi. Mais si nous on est épuisés, ben on va pas pouvoir prendre soin de nos enfants. Donc c'est pour ça que passer le relais quand on peut, faut vraiment pas hésiter. Et parfois on culpabilise en se disant mais mince, c'est plutôt à moi de m'en occuper, etc. Mais finalement c'est aussi faire un cadeau, par exemple aux grands-parents, de leur laisser une soirée ou un week-end, parce qu'ils vont aussi avoir des liens privilégiés. Nous on va pouvoir souffler et on sera encore plus content de les retrouver après. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à essayer de trouver du temps. Alors ça, c'est pas forcément tout un week-end, mais ça peut être juste ne serait-ce qu'une heure, même dans la semaine, de faire une activité où on se ressource et où quand on revient, on a un peu plus d'énergie pour pouvoir ensuite juste gérer notre rôle de parent aussi, quoi, et en profiter.
S'il y avait des politiques publiques autour de la gestion de l'épuisement parental, qu'est-ce que ça pourrait être comme mesure qui soit mise en place justement pour reconnaître ce que vous disiez là de la fatigue physique pour les enfants de parents de moins de 6 ans par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait penser et aménager en termes de politique publique et de politique de la famille par rapport à l'épuisement parental et à sa prévention?
Alors déjà, je pense qu'il faut favoriser au maximum les lieux publics justement où les parents peuvent échanger, par exemple les maisons des habitants. Il y a les maisons vertes aussi pour les jeunes parents, donc ça c'est vraiment très riche. Et je pense que vraiment pouvoir développer encore plus les interventions qu'on propose. Nous, on a donc maintenant plus d'une centaine de parents qui ont pu bénéficier des ateliers, dont on a pu montrer l'efficacité entre avant et après les ateliers, justement, sur l'amélioration de la relation parent-enfant, sur une diminution de l'épuisement parental, sur une diminution de l'anxiété, de la dépression. Donc vraiment, même au niveau, je dirais, de la santé publique, que ce soit au niveau des parents qui vont de fait être moins en arrêt maladie, que ce soit arrêt de travail ou autre, et puis pour les enfants, à la fois pour leur qualité, évidemment, de vie à eux, mais aussi pour les futurs adultes qui vont devenir, je pense qu'on a vraiment intérêt à mettre le paquet sur la prévention, vraiment la prévention primaire, pour aider justement les jeunes parents, parce qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi à la base quand on est parent, et ce qu'on entend beaucoup chez les parents, c'est « je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile ». Et c'est vrai que souvent, c'est, comme on disait tout à l'heure, un peu un tsunami, hein, quand on commence à être parent, on n'a pas forcément les mêmes visions avec le conjoint, pas toujours le même mode d'éducation, il y a parfois des divergences de points de vue, et je pense que de pouvoir échanger déjà sur la difficulté de certains moments, et bien déjà ça peut permettre de voir qu'on n'est pas tout seul, que ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais parent, de pouvoir encore une fois trouver quelques outils aussi à travers ces ateliers. C'est vraiment des préventions qui vont permettre de pouvoir améliorer de manière durable la relation parent-enfant, et je pense qu'il y a vraiment besoin de pouvoir ouvrir encore plus ce genre d'intervention, donc pouvoir former des professionnels pour pouvoir faire bénéficier à plus de parents en fait de ce genre d'intervention. C'est finalement très peu, hein, c'est 2 mois finalement, enfin c'est 20 heures dans une vie, mais qui à mon sens sont vraiment un temps investi. La plupart des parents disent que c'est un très beau cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, c'est un temps qu'on prend pour soi, pour parler de nous et des enfants, mais qui vont permettre encore une fois de changer de regard et du coup d'améliorer à terme la relation parent-enfant.
Et en termes de prévention de l'isolement et d'accueil des jeunes enfants dans des structures, quelles préconisations en fait on pourrait faire pour développer des accueils un peu différents, imaginons sur des soirées ou des week-ends ?
Alors c'est vrai que déjà de pouvoir avoir un peu plus aussi de places temporaires, par exemple dans des crèches ou des micro-crèches, qu'on sait que c'est très saturé aussi hein, tous ces endroits-là, donc d'avoir plus peut-être des lieux de vie, encore une fois comme les maisons vertes ou d'autres endroits. Et puis ce qui manque aussi beaucoup, c'est toutes les activités parents-enfants, mais avec des petits-enfants. C'est-à-dire effectivement, là il y a par exemple des fois de la gym pour les enfants, mais ça peut être des ateliers yoga, des ateliers gym douce, enfin là des choses, ou ateliers même créatifs. Mais je sais que les parents apprécient beaucoup ces moments-là. Donc par exemple, il y a des, parfois des histoires racontées à la bibliothèque, mais donc ça peut être des choses qu'on pourrait généraliser un peu plus et donc ouvrir davantage de temps parent-enfant de qualité qui permettrait justement de passer de bons moments avec son enfant, qui soit un petit peu cadré, de rencontrer d'autres parents aussi avec des enfants un peu du même âge et de pouvoir échanger et encore une fois avoir plus de soutien, donc se retrouver moins seul. Je pense que ça, ce serait important aussi à développer. Donc pour les parents qui seraient intéressés pour suivre les ateliers, donc je précise qu'ils sont complètement gratuits puisque c'est dans le protocole de recherche, donc on fait bénéficier en fait les parents gratuitement de l'ensemble des interventions. Donc vous pouvez trouver les dates et vous inscrire sur l'Observatoire de la parentalité et du soutien à la parentalité, donc c'est OPSP, et vous trouverez en fait sur le site internet un lien de contact pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez et avoir aussi un peu plus d'informations sur les outils pour aider à soutenir les parents.